Voici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale pour parler industrie et compétitivité. Nous allons vers un sommet européen consacré à l'économie européenne et surtout à la façon de la stimuler mieux, et ce sera les 17 et 18 avril prochains. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons Markus Beyrer. Bonjour Monsieur Beyrer, en duplex depuis Bruxelles.
Bonjour.
Vous êtes depuis 2012 le directeur général de Business Europe, c'est l'association patronale de l'Union européenne. Auparavant, directeur général d'ailleurs de la Fédération des industries autrichiennes et conseiller de chancelier. Alors, parlons de cette année 2023. On a constaté que la croissance de l'Union européenne était faible, à moins de 1%, alors que les États-Unis, caracolaient bien au-dessus, à 2,5% selon le FMI. Pourquoi ce fossé, selon vous ?
Déjà, comme vous le dites, on a perdu du terrain vis-à-vis de nos compétiteurs, notamment les États-Unis. Et il y a un nombre de raisons pour cela. D'abord, il y a les prix de l'énergie en Europe qui sont beaucoup plus élevés qu'ils le sont aux États-Unis ou dans d'autres parts du monde. On voit qu'il y a trop de bureaucratie en Europe. On parle entre-temps d'une inflation régulative. Donc, il y a beaucoup trop de bureaucratie. Et puis, on voit aussi que les procédures pour permettre de l'investissement dans des sites industriels, mais aussi dans l'infrastructure en Europe, durent beaucoup trop longtemps. Donc, on a un nombre de problèmes auxquels il faudrait remédier pour notamment regagner du terrain sur nos compétiteurs dans les marchés mondiaux.
Mais justement, ce 17 et 18 avril, Enrico Letta, un ancien président du Conseil italien qui a été chargé d'un rapport sur le futur du marché unique, va le rendre aux chefs d'État et de gouvernement et préconiser une meilleure intégration des secteurs des télécoms, de l'énergie et de la finance, parce que selon lui, le marché unique est toujours trop national et segmenté. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ?
Tout à fait. On a de grandes attentes vis-à-vis le rapport d'Enrico Letta en ce qui concerne le marché intérieur, parce qu'on a vu ces dernières années que ce bijou de l'intégration européenne, inventé par le grand français Jacques Delors, était plutôt en déclin. Donc il y a trop d'obstacles dans toutes les libertés, pour les biens, pour les services, pour la circulation, libre circulation des personnes, auxquelles il faut remédier. Et pour ça, bien sûr, il faut des propositions que Enrico Letta va faire, mais il faudra aussi une volonté politique de renverser ce développement et de se remettre à construire ce marché intérieur.
Alors, vous dites quand même régulièrement, nous ne voulons pas que le marché européen soit perturbé par des aides d'État nationales aux entreprises. Est-ce que c'est le cas qu'il soit perturbé ?
Non, mais je pense que c'est surtout une question de balance. C'est clair que des aides d'État peuvent être justifiées dans certains cas, quand il s'agit, par exemple, d'aider les entreprises à transformer dans la direction de décarbonisation ou aussi de faire face à une compétition mondiale qui est, elle aussi, soutenue par des aides de l'État, comme par exemple dans le cas de l'Inflation Reduction Act américain. Mais l'essentiel, c'est que ce qui est fait soit transparent, soit fait de façon conjointe et contrôlée par le niveau européen, soit temporaire. C'est là-dessus qu'on entend certaines propositions de la part de Enrico Letta, mais aussi plus tard, après les élections européennes, de Mario Draghi, ancien Premier ministre italien, qui lui est chargé par la présidente de la Commission pour faire un rapport sur la compétitivité européenne en tout.
Par exemple, vous ne voulez pas que toutes les batteries électriques soient fabriquées aux États-Unis. Or, on voit, par exemple, dans le cas de Solvay, qui a fait une joint venture avec Orbia, qu'elle reçoit 180 millions d'euros de subventions vertes des États-Unis, qui a adopté d'ailleurs une législation pour subventionner fortement ces industries, et 0 euro de l'Europe. Il y a un problème, justement, de ce côté-là?
Premièrement, c'est pas une bonne chose d'entrer, comment dirais-je, dans une compétition basée sur des aides à l'État de façon globale. Mais après, il faut aussi voir les réalités. Et il faut voir que la Chine subventionne depuis très longtemps. Il faut voir que les États-Unis, ils ont frappé un grand coup avec le Inflation Reduction Act. Et bien sûr, il faut faire face à ça. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, mais il y a certaines nécessités, comme par exemple dans le chip sector européen, il y a des mesures qui sont prises pour justement faire sûr que les chips ne soient pas uniquement produits hors l'Europe, ce qui est un enjeu majeur stratégique. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de procédure. Ce que nos entreprises nous disent, c'est que, et il y en a pas mal qui investissent aux États-Unis en ce moment, c'est que c'est plus prévisible, c'est plus clair qu'est-ce qu'on reçoit, sous quelles conditions, et donc ça aide beaucoup plus à l'investissement de ces entreprises.
Dans le secteur de la défense que le commissaire français Thierry Breton voudrait muscler depuis la guerre en Ukraine, 80% du matériel militaire acheté par les pays européens le sont avec, d'ailleurs l'argent du contribuable européen, le sont par du matériel non européen. Ça crée des emplois, certes, mais en Corée du Sud, en Turquie, aux États-Unis, la défense est essentiellement constituée de marchés publics. Là, que demande votre confédération des employeurs européens?
On n'a pas de position spécifique vis-à-vis des défenses. C'est un secteur qu'on ne couvre pas tout à fait. Mais ce qui est clair, c'est que l'Europe va devoir trouver des solutions au fait qu'on dépense pas mal d'argent tout en étant beaucoup moins efficace avec ce qu'on dépense. Donc là, c'est une question qui devrait être abordée.
Alors, Markus Beyrer, en tant que lobbyiste pro-business, finalement, vous plaignez du ralentissement de la croissance européenne par un excès de normes. Est-ce que ce n'est pas plutôt dû quand même aux crises, au Covid, puis à la crise énergétique?
Il y a plusieurs aspects. Enfin, bien sûr, il y a le choc exogène qui était causé par la guerre en Ukraine, qui a rajouté à l'écart qu'il y a entre le coût de l'énergie en Europe et le coût de l'énergie dans nos marchés compétiteurs. Donc ça c'est un. Mais deuxièmement, il y a justement trop de réglementations. Par exemple, on a dû faire face à un véritable tsunami de législation ces dernières années, comme par exemple dans les propositions qui étaient faites par le Green Deal, qui représentent, selon les estimations de la Commission elle-même, un poids de 2 milliards d'euros en 2022 seulement. Ce qui fait qu'on a toujours soutenu le Green Deal et puis les buts du Green Deal et puis les nécessités du Green Deal, mais il faut faire ça d'une façon que l'Europe arrive à décarboniser sans désindustrialiser. Et puis en ce moment, nos membres nous disent qu'ils font face à un tsunami de réglementation, un tsunami de bureaucratie. C'est pour ça que nous, on demande que ce Green Deal, il va être complémenté par ce qu'on appelle un deal industriel, un industrial deal, pour justement remonter la pente et pour refaire l'Europe plus compétitive.
Alors, le pacte vert dont vous parlez, le Green Deal, certains quand même ont été très offensifs pour faire valoir leurs intérêts à Bruxelles. On pense à McDonald's qui a réussi à alléger les contraintes sur l'emballage dans la restauration rapide. Les constructeurs automobiles qui ont œuvré pour ne pas avoir de nouvelles normes trop fortes d'émissions dites Euro 7. Vous dirigez cette fédération des industriels. Est-ce que finalement, vous êtes dans la peau d'un lobbyiste anti-pacte vert?
Non. Je pense que là, on a toujours été très crédible dès le départ qu'on soutient le pacte vert, on soutient les objectifs du pacte vert parce que c'est la bonne chose de décarboniser en Europe. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut faire ça d'une façon qui nous permet à garder une base forte industrielle en Europe, à décarboniser sans désindustrialiser, pour justement maintenir le niveau de vie en Europe, pour justement maintenir les emplois en Europe, mais aussi pour prouver au monde qu'on peut le faire sans perdre de la compétitivité et sans perdre de niveau de vie. Pour la simple raison que nous, Europe, en 2030, on sera un peu plus que 5% des émissions mondiales, ce qui fait la seule façon de sauver le climat mondial sera de prouver au reste du monde, aux grands émetteurs, qu'on peut faire en restant compétitif, parce que là, après, on aura une chance qu'ils vont nous suivre. Si, par contre, on n'y arrive pas, il a le fort danger que l'inverse va se passer, et puis il y en a qui vont tirer la conclusion que ce n'est peut-être pas le chemin à faire. Donc aussi vu d'un point de vue climatique, c'est important de prouver au monde qu'on peut décarboniser tout en restant compétitif.
Alors, la directive sur le devoir de vigilance des entreprises qui est en train d'être discutée les oblige à prévenir les risques sociaux et les risques environnementaux. En d'autres termes, à ne pas gagner de l'argent en polluant. Elle a été vivement critiquée par les représentants du monde des affaires, les libéraux en Allemagne, car elle peut, là vous le disiez encore, entraîner des charges administratives additionnelles. Mais quel est votre message aux futures générations ?
Mon message, c'est que les entreprises européennes ont toujours été prêtes à prendre leurs responsabilités et prennent leurs responsabilités dans les marchés du monde entier. Et dès le départ, on a négocié dans cette directive pour avoir une solution qui soit applicable pour les entreprises. Le résultat qui était produit à la fin ne l'est pas. Ça met des obligations unilatérales qui pèsent lourd, comme je dis d'une façon unilatérale, sur les entreprises européennes. Ça réduit la compétitivité d'entreprises européennes et il y a un fort danger qu'il y aura des entreprises européennes qui vont quitter des marchés en Afrique, quitter des marchés en Asie, avec le résultat que, bien sûr, enfin, nous, on va perdre en compétitivité, mais aussi, ça ne va pas améliorer la situation dans ces marchés, tout au contraire, parce que les investisseurs européens dans ces marchés, ils prennent leurs responsabilités, beaucoup plus que d'autres, qui n'ont pas les mêmes obligations. Et s'il y a des investisseurs européens qui quittent ces marchés, ça va mener à une situation qui va détériorer la situation dans ces marchés également. Et puis, comme vous parlez du compromis qui était trouvé sous présidence belge là maintenant, je pense qu'on a bien vu qu'il y avait 10 pays représentant plus que 31% de la population européenne qui n'étaient pas à bord. C'est un fort indice que, justement, ça n'a pas encore été une solution applicable et c'était pas mûr pour une décision.
Vous êtes autrichien, Markus Bayrer, et dans votre pays, comme en Allemagne d'ailleurs, dont nous allons prendre la direction, les femmes ont du mal à se maintenir dans le marché de l'emploi, alors pourtant qu'il y a une forte demande des employeurs. En cause, les structures d'accueil pour les jeunes enfants, comme nous le montre ce reportage de notre correspondante en Allemagne, Anne Maillet.
Pas facile d'être une maman active en Allemagne. Reprendre le travail après la naissance d'un bébé est un parcours de combattante. En théorie, chaque enfant de plus d'un an a le droit à une place en crèche depuis 2013. La situation s'est globalement améliorée, mais il manque toujours 430 000 places en crèche et jardins d'enfants. Que ce soit dans le public ou dans le privé, la prise en charge des coûts par la collectivité est la même. Cet établissement franco-allemand, situé dans un quartier prisé de la capitale, peut accueillir 30 enfants, mais la liste d'attente ne désemplit pas. Pour certaines mamans, la pause maternité a été plus longue que prévu.
Avec les problèmes de garde, je suis finalement restée 2 ans sans travailler, jusqu'à ce qu'on obtienne une place ici.
Une attente liée notamment à un manque de puériculteurs. car ils sont toujours moins nombreux à s'intéresser au métier de la petite enfance, selon cet éducateur.
Moi, je préviens toujours ceux qui veulent se lancer dans une formation d'éducateur. On ne gagne pas beaucoup et en réalité, on fait presque un cadeau à la société parce qu'on fournit un travail qui n'est pas rémunéré comme il se doit.
En 2023, tout le secteur a été secoué par des grèves historiques. Les salariés de la petite enfance ont finalement obtenu des augmentations de salaire importantes. Mais le défi reste entier. Dans certaines régions de l'Ouest, particulièrement denses en population, le manque de puériculteurs est criant. Sur l'ensemble du pays, il manquera plus de 110 000 employés qualifiés dans le secteur d'ici à 2025. Alors que 98% des pères travaillent à plein temps, seuls 70% des mères allemandes retrouvent la vie active après la naissance des enfants, et la plupart à temps partiel. Si la prise en charge était à la hauteur de la demande, plus de 800 000 mères de jeunes enfants pourraient reprendre le travail à plein temps.
Alors, Monsieur Bayrer, il y a un écart de 12 points en Europe entre le taux d'emploi des femmes et celui des hommes, hein, qui est bien moins important donc, que celui des hommes. Est-ce que vous battez aussi un peu à Business Europe pour que les femmes trouvent leur place sur le marché de l'emploi ?
Tout à fait. Enfin, c'est très clair que partout en Europe, on a le problème avec de la main-d'œuvre et surtout de la main-d'œuvre qualifiée qui n'est pas suffisamment disponible. Et bien sûr, l'une des grandes questions, c'est comment on peut activer ceux qui ne sont pas actifs dans le marché du travail et surtout ceux qui voudraient être actifs. Et bien sûr, là, les femmes, c'est une question primordiale. Et puis là, c'est très clair qu'en France, par exemple, on a de très bonnes mesures de crèches et de garderies qui permettent aux femmes de travailler. Ça, c'est une question où d'autres pays de l'Europe ont encore du progrès à faire. Et Business Europe a toujours beaucoup soutenu ces nécessités, ces investissements dans l'infrastructure qui, effectivement, permettent aux femmes de travailler parce que il y a une forte nécessité, une nécessité de la société, mais aussi une nécessité, bien sûr, de l'économie.
Alors, d'ailleurs, dans l'industrie, hein, pour situer un petit peu, 22% des employeurs déclarent ne pas trouver de travailleurs dont ils ont besoin, 28% dans le secteur de la construction et 30% dans les services. On peut parler de pénurie de main-d'œuvre en Europe alors qu'il y a un chômage de 6%. C'est paradoxal.
Tout à fait. Et justement, bon, c'est une question de qualification aussi, mais ça, c'est une question sur laquelle on pousse beaucoup. Et puis la Commission, heureusement, a réagi avec un plan d'action récemment, suite à nos demandes, pour faire face à ce problème. Et les choses les plus importantes qu'on demande, c'est un, justement, de mobiliser les inactifs et ou ceux qui ne travaillent pas et qui pourraient travailler. Bien sûr, c'est les femmes, il y a des jeunes. Il y a aussi des personnes aussi d'un certain âge, mais d'autres groupes. Et les autres grands défis, c'est la mobilité au sein du marché intérieur. Et troisième point, c'est la nécessité d'attirer la main-d'œuvre qualifiée aussi de pays tiers. Mais comme vous le dites, le potentiel…
Une immigration choisie, hein, c'est bien dont vous nous parlez, l'immigration choisie.
Ben oui, mais la migration qualifiée. Je pense que le problème qu'on a un peu en Europe, c'est que on n'est pas assez précis et on n'arrive pas à tirer dans toutes les situations les personnes ce dont notre société et nos marchés de travail auraient besoin. Mais pour revenir au potentiel féminin dans le marché du travail, ça, c'est essentiel, ça a toujours été partie de notre politique et c'est important qu'on remédie au problème.
Merci Markus Bayrer d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur RFI et France 24, où l'actualité internationale et européenne continue bien sûr.